Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Pour la femme accusée que des hommes ont jeté par terre devant toi. Pour la femme qui oignait tes pieds de ses larmes que tu n'as pas rejetées. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Pour cet homme lépreux à qui tu as donné un nouveau visage. Pour cet homme muet au cœur plein de foi qui a pu te louer. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Pour ce terrible jour où tu donnas ta vie clouée sur la croix. Pour ce merveilleux jour sortant du tombeau, on te vit ressuscité. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours.
Je vous bénisse. Bien, ce matin, eh bien, moi, je me suis assis sur mon siège de bureau et crac. voilà. Il a vécu. Ça fait drôle le matin. Ça réveille, hein. Ça réveille. Mais bon, je suis encore là. Donc, il y a une certaine souplesse encore à mon grand âge, n'est-ce pas? On va lire Hébreux chapitre 8, s'il vous plaît, dans vos Bibles. Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. C'est, à mon avis, l'apôtre Paul qui écrit ça. Hein. J'ai toujours cru que moi, c'était l'apôtre Paul qui avait écrit ça. En effet, si la première alliance, c'est-à-dire celle du temps de Moïse, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il est en train de dire que l'alliance faite entre Dieu et les hommes au temps de Moïse, il y avait des défauts. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Juda » une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et, ah, tu ne veux pas te soucier de l'alliance de Dieu? Ben Dieu ne se soucie pas de toi. Ah, tu ne veux pas croire en Dieu? Ben Dieu ne croit pas en toi. Voilà. C'est comme ça, hein? Bon. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré « Ancienne, la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. » Oula, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vendredi soir, je vous parlais de la loi de Moïse et de la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, la loi de ce que la Bible appelle le royaume terrestre, c'est-à-dire le royaume, l'église de Jésus-Christ, de la véritable église de Jésus-Christ, acte 2, acte 4. Et il nous faut distinguer deux choses. Le niveau moral exigé par la loi de Moïse était limité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il était imposé à des gens qui n'étaient pas régénérés. La loi de Moïse s'adressait donc à des hommes, à des femmes naturelles. Donc, les exigences de la loi ne dépassaient pas les limitations humaines. Et puis en plus, on voit qu'à cause de la faiblesse de l'homme, personne n'a pu satisfaire les exigences de cette loi qui pourtant n'était pas... C'était pas si difficile quand même. Eh bien, ils n'y arrivaient pas, du temps de Moïse. C'est pas possible, ils n'y arrivaient pas. En fait, il n'y a que Jésus-Christ qui a obéi à toute cette loi. Que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est arrivé à obéir à tout ça. Frères et sœurs, depuis que j'ai compris que par la grâce, Dieu nous a donné un pouvoir, c'est-à-dire une capacité, la capacité d'observer, d'obéir à ses lois, je me suis demandé si dans l'Ancien Testament, donc tous les textes qui concernent l'époque avant Jésus, je me suis demandé s'il y avait un passage où Dieu disait « Voici, je vais vous donner le pouvoir d'obéir à mes lois ». Ben, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas. Dieu donnait ses lois et le résultat ne dépassait absolument pas ce que la chair pouvait produire par elle-même. Quand je dis la chair, c'est-à-dire notre moi, notre psychisme, notre corps, tout ça. Les lois que Dieu donnait, ça ne dépassait pas les capacités de l'être humain. Et encore, on trouvait moyen à cette époque-là de faire des erreurs, de désobéir, de faire comme on voulait, de se révolter contre Dieu, voilà. Et ça a duré 1500 ans, cette histoire de la loi de Moïse. La dispensation de la loi de Moïse, 1500 ans. Elle est devenue quoi ? Elle est devenue la démonstration de l'impuissance universelle de l'homme face aux exigences de Dieu. L'homme ne peut pas plaire à Dieu par ses propres moyens. L'homme ne peut pas arriver à vivre d'une façon correcte par ses propres moyens. Il en est absolument parfaitement incapable. Il ne peut pas. Voilà, c'est dit. Alors, maintenant, 1500 ans d'expérience, c'est pas rien quand même. Avec 10 commandements, personne n'a réussi à les mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a dit, j'en ai marre, comme dit Osborne, j'en ai marre. Je vais trouver un autre moyen. On vient de le lire. Je vais pardonner tous les péchés. Voilà. Et maintenant, c'est une nouvelle alliance que je fais avec mon peuple. C'est une nouvelle alliance qui est plus basée sur l'observation des lois. C'est terminé. Jésus est venu, il a lui-même vécu, il a observé toutes les lois de Moïse, il a obéi, et puis ensuite il s'est chargé de nos fautes. Ça veut dire quoi ? Au temps de Moïse, il y avait une loi qui disait « t'as péché, alors pour être pardonné de ton péché, il faut offrir une colombe ou une brebis ». Ça dépendait le péché. Plus tu avais fait un gros péché, plus tu devais offrir quelque chose de cher. Mais si tu étais pauvre, il y avait quand même des arrangements. Mais tu devais faire un sacrifice, c'est-à-dire que l'animal qui était tué, là, il te représentait. C'était ton substitut. Tu as péché, mais c'est l'animal qui est puni à ta place. Voilà. Maintenant, le sang de l'animal a coulé, tu es purifié devant Dieu. Mais il fallait recommencer tout le temps, parce que tout le temps, l'homme recommençait à pécher, et il fallait recommencer tout le temps. Jésus est venu, il a dit, c'est fini toutes ces effusions de sang, tout ce sang qui coule, c'est terminé. Maintenant, il est venu, Jésus, et il a dit, maintenant, je m'offre, je donne ma vie moi-même en sacrifice pour tout le monde. C'est-à-dire que, quand Jésus est mort sur la croix, c'était mes péchés, c'était tes péchés qu'il a portés. Il a été puni à ma place, puni à ta place pour toutes les bêtises que tu fais. Il en est mort une fois pour toutes. Et maintenant, ce qui nous est demandé, c'est de croire dans ce qu'il a fait. Ça, c'est la loi. croire dans ce qu'il a fait à la croix. Si seulement tu peux croire, alors tu es sauvé. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si je te disais qu'il suffit que tu regardes ce truc-là pour être sauvé, est-ce que tu irais regarder ailleurs? Est-ce que tu dirais, oh ben non, c'est trop beau pour être vrai, je vais regarder ailleurs. Si je te dis, pour aller au paradis, il suffit que tu regardes ça, qu'est-ce que tu ferais? Si tu es bête, tu vas regarder ailleurs. Si tu es intelligent, tu regardes ça, tu dis, ah ben si c'est le seul moyen pour être sauvé, ben, alors je vais regarder ça. Ben, Jésus est venu et il a dit, quiconque croit en moi, je lui donne la vie éternelle, le pardon de ses péchés et le pouvoir de surmonter les difficultés, le pouvoir de dire non au mal. Si tu es bête, tu n'y crois pas. Si tu es intelligent, tu dis, mais moi c'est ça que je veux. Dieu, ton créateur, est-ce que tu peux discuter avec ton créateur? Est-ce qu'on va discuter avec notre créateur? Est-ce que vous avez vu une montre qui discute avec un horloger qui dit, oui, Non. Il faut avoir un peu d'humilité dans la vie. Hein? Nous avons un créateur, il nous offre un moyen pour être pardonné de nos péchés et transformé. Donc Jésus est venu, il s'est chargé de nos fautes, il en est mort, et à ce moment-là, ça a été la fin du règne de la loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, ça c'est interdit, comme ci, comme ça. Mais ça a été plus que ça. Ça a été aussi la fin de la confiance que l'homme pouvait mettre en lui-même pour pouvoir gagner son ciel. On ne peut pas gagner notre ciel par nos bonnes œuvres, ce n'est pas possible. Quand Jésus est mort sur la croix, à notre place, ça a été le point final de cette histoire de « pour aller au ciel, il faut le mériter ». On ne mérite pas. C'est une grâce, c'est un cadeau. Dieu nous fait cadeau. C'est ça la grâce. Par sa mort, par ses résurrections, Jésus dit « Maintenant, arrêtez de vous faire confiance à vous-même. Arrêtez avec vos bonnes résolutions. Arrêtez, vous ne pouvez tout simplement pas faire ce qui plaît à Dieu. Vous pouvez faire qu'une seule chose quand vous êtes livré à vous-même, c'est de vous détruire. Le monde entier fait ça. La terre est un endroit magnifique, on en a fait une poubelle, c'est une infection, c'est un furoncle. Tout simplement parce que l'homme ne veut pas de Dieu. Et il croit qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul. Ah, c'est bien la façon qu'il a de se débrouiller tout seul, formidable, hein. Plus il veut faire, plus c'est pire, comme on dirait. Jésus ne nous méprise pas en nous disant que nous sommes des incapables. Jésus ne nous méprise pas en disant qu'on est incapable de faire le bien. Simplement, il affirme une vérité. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Ni vous, ni moi. Nous ne pouvons pas. C'est une grande vérité. Et si c'est lui qui le dit, ben moi ça me rassure. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure. Dieu ne se fait aucune illusion sur vous et sur moi. Aucune illusion. Livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de lui plaire. Il nous faut donc du secours. Alors, il a institué son église, c'est-à-dire son royaume terrestre. C'est difficile d'y entrer, c'est pas facile. C'est difficile d'entrer, parce que pour y entrer, il faut être humble. Et ben voilà, ça c'est pas la qualité numéro un des gens de ce monde, l'humilité, de dire « j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de secours, j'ai vu que je ne peux pas y arriver par moi-même ». Et puis une fois dedans, une fois qu'on a franchi cette porte, spirituellement parlant, hein, je ne parle pas d'une porte là, une fois qu'on est rentré dedans, une fois qu'on a compris le message de Jésus, son amour, sa bonté, sa miséricorde, une fois qu'on est entré là-dedans, et bien c'est pas facile d'y vivre si on cherche à y vivre encore par nos propres capacités humaines. Mes frères et sœurs, t'as beau être chrétien, si tu cherches à vivre ta vie chrétienne par tes capacités humaines, c'est insupportable. C'est insupportable, pourquoi? Parce que tu vois que tu n'y arrives pas, tu vois que les autres n'y arrivent pas, tu vas commencer à critiquer les autres vont te critiquer, puis ça va être une église d'enfer, dans le sens négatif du mot. Parce que le niveau moral, mes frères et sœurs, qui est exigé dans la loi du royaume terrestre, c'est-à-dire dans l'Église, il est il est beaucoup plus élevé que le niveau moral qui était exigé du temps de Moïse. Il est intensifié dans ses exigences. Moïse, il disait, quiconque commet l'adultère, voilà, c'est un péché. Jésus dit, moi je vous dis qu'il suffit d'en avoir la pensée au cœur pour l'avoir commis. Ah, c'est pire! Ça va plus loin que ce qu'exigeait Moïse. Dans le gouvernement du royaume de Dieu, du royaume terrestre de Dieu, dans sa société, dans son monde, ici-bas, sur cette terre, dans la véritable église de Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est nous la véritable église de Jésus-Christ, mais au moins on essaye d'être au plus près de ce que Jésus-Christ enseigne. Il y en a d'autres. Eh bien, certaines parties de la loi de Moïse vont plus loin que le passage à l'acte, que le passage à l'acte transgressif. La loi, dans l'Église, comprend les pensées secrètes, elle comprend les intentions du cœur. Jésus dit, voilà, moi je vois les intentions de ton cœur. Fais attention, garde ton cœur. Protège-le, ne laisse pas n'importe quelle saleté rentrer dedans, n'importe quelle tentation rentrer dedans. Philippe, en ce moment, au château, il est en train de faire un poulailler. Eh bien, je suis sûr qu'il va mettre une barrière tout autour. Pourquoi ? Pour que les renards, et il y en a dans le coin, ne viennent pas bouffer ses poules. Mais vous, vous avez quelle barrière dans votre vie pour empêcher le diable de venir bouffer votre vie, votre cœur ? Quelle barrière ? Quelle protection ? Qu'est-ce que vous mettez pour vous protéger ? Qu'est-ce que vous avez pour vous protéger ? Rien. Le matin, on se lève et puis on vit n'importe comment. On est un petit peu comme des gens qui voudraient gravir l'Everest, mais qui ne prennent pas de carte, qui ne prennent pas de guide, qui y vont en basket. Donc c'est sûr qu'on va se casser la figure. Et tout le monde se casse la figure. Puis après on dit, « Ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère !» Mais est-ce que l'homme peut être bête ? Oui ou non ? Bien sûr. Moi le premier. Alors, nous l'avons vu, il y a des exigences dans l'Église de Jésus-Christ quant au renoncement, à l'abandon, à la consécration personnelle à Dieu. Et ces exigences-là, elles ne se trouvent pas dans la loi de Moïse. Dans les 10 commandements, vous n'avez pas tout ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour nous pour qu'on puisse vivre tout ça ? Eh bien, premièrement, son royaume terrestre, sa véritable Église, c'est une terre purifiée. C'est une terre purifiée. C'est-à-dire que là où tu poses tes pieds, là où tu vas, c'est purifié. Pourquoi ? Parce que tu as un pouvoir. Satan est lié, les démons sont liés, tu as le pouvoir de les lier, tu as l'autorité de les chasser, tu as l'autorité de leur interdire l'accès dans ta vie, sur ton territoire, tu as l'autorité. Tu n'es plus une victime. Tu deviens un combattant de la victoire, avec une victoire assurée. Et nous, donc, les sujets du royaume terrestre, c'est-à-dire les membres de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, nous avons accès, en plus, à une inspiration instantanée. En plus, les anges de Dieu nous servent. En plus, le Saint-Esprit nous inspire. Ça, c'était pas comme ça du temps de Moïse, hein. Nous avons autorité au nom de Jésus-Christ sur toute la puissance frauduleuse, mensongère et illégale de l'ennemi, du diable, des démons, du tentateur. Allez, juste encore une fois, non. Dieu a fait un miracle en nous. Il a incliné nos cœurs au désir de faire sa volonté. On va lire ça dans Jérémie, si vous voulez, 31, 33, 34. C'est un vieux prophète, longtemps avant Jésus, qui avait prophétisé, et il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et Paul reprend ce texte. Il dit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est accompli, c'est fait. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Là, il n'y pense pas. Dieu ne te regarde pas en te condamnant. Il ne te condamne pas. Il y a aucune loi. La loi qui te condamnait a été clouée à la croix. C'est fini. Cet acte condamnateur qui subsistait contre toi, il n'existe plus. Dieu ne t'en veut pas. Dieu n'est pas en colère contre toi, quoi que tu aies fait. Il a pardonné tes péchés, alors maintenant, il te donne un cœur nouveau. Il inscrit ces bonnes lois dans ton cœur pour que tu puisses les faire spontanément. Est-ce que je vous enseigne connaissez l'Éternel? Non, parce que vous le connaissez. Vous croyez en Dieu. Parce qu'il a mis en vous la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que je fais là? Ben simplement, j'exerce un ministère pastoral, c'est-à-dire que je vous dirige comme le bon berger, le grand berger, me demande de le faire avec vous. Mais je ne vous demande pas de croire en Dieu, vous y croyez déjà. Alors, certains vont me dire, des théologiens, « Oui, mais là, ces textes que tu prends, c'était adressé à Israël, et tu viens de le lire aussi dans la lettre aux Hébreux, c'est donc pour les Juifs. » Et alors c'est là que j'interviens en disant « Non, non, vous ne laissez pas avoir par ces théologiens. » Ce que je vous dis, et je vous le dis de la part du grand berger, ces bénédictions, elles s'étendent aux nations de la terre. C'est Ésaïe, le prophète, au chapitre 11, verset 10, qui le dit. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera leur demeure. Les nations de la terre. C'est nous, ça, non? Vous êtes quoi, vous, français? On va vous en souvenir dimanche, hein? Israël va vivre ces choses dans son pays, en Israël, bientôt. Mais nous, gens des nations, nous les vivons déjà dans le royaume terrestre de Jésus qui est son Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est... Il n'y a que Dieu qui sait qui fait partie de son Église. Il y a des gens qui font partie de son Église partout. Tous ceux qui se réclament du nom de Jésus, dans tous ces endroits-là, il y en a chez les pentecôtistes, il y en a chez les catholiques, il y en a chez les protestants, il y en a chez les baptistes, il y en a chez les mormons, il y en a chez les témoins de Jéhovah, il y en a partout des véritables authentiques chrétiens qui aiment Dieu. Est-ce que l'église témoin de Jéhovah est l'église véritable de Dieu? Non. Est-ce que l'église catholique est la véritable église de Dieu? Non. Est-ce que les pentecôtistes c'est la véritable église de Dieu? Non. Est-ce que nous ici c'est la véritable église de Dieu? Non. Mais il y a des authentiques enfants de Dieu ici aussi. Et ces authentiques enfants de Dieu font partie de cette église que seul Dieu connaît. Ah. Israël va vivre ces choses dans son pays bientôt, mais nous, nous les vivons déjà dans l'église. Dans cette église que Dieu seul connaît. Dans cette église, acte 2, 4. La porte, c'est difficile à trouver. Jésus a dit, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent. Hein? Et ceux qui trouvent cette porte-là, ils ne désirent pas forcément ensuite marcher sur le chemin qui se trouve juste derrière cette porte. C'est un peu difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que le niveau moral prescrit par les enseignements de la grâce, par Jésus-Christ, c'est incommensurablement plus difficile à maintenir. Alors, qui pourrait y vivre? Qui pourrait vivre dans l'église de Jésus-Christ? Qui pourrait être sauvé? Qui? Mais qui, si c'est si difficile que ça? Eh bien, mes frères et sœurs, notre capacité divine sous la grâce, parce que Dieu nous a graciés, parce que Dieu nous a pardonnés, eh bien, c'est rien moins que la puissance infinie du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est ça, cette capacité. C'est Dieu qui vit en nous, lui-même qui vit en nous, pour nous donner la force face à toutes les difficultés de la vie. Et ce n'est pas une blague, c'est vrai. Plusieurs ici peuvent en témoigner. La grâce est habilitante, comme je vous l'ai enseigné dernièrement. Elle nous rend capables, elle nous rend aptes à vivre ce que Jésus veut que nous vivions. Quand on était enfant, tous on disait, moi je veux être ceci, moi je veux être cela. Les petites filles voulaient être la princesse Aurore, personne ne voulait être la méchante sorcière, hein, tout le monde voulait être la plus gentille, tous les petits garçons voulaient être le prince charmant, ou le héros de l'histoire. Et puis en vieillissant, le diable a cassé votre rêve, et puis maintenant vous dites, ouh là là, qu'est-ce que je suis devenu? Je ne suis pas du tout la princesse Aurore. Hein. Non. Mais Dieu te donne un pouvoir habilitant, il va te rendre apte, capable de changer de vie. Les enseignements que nous recevons du Seigneur sont adressés maintenant à des gens surnaturels, nés de l'Esprit, dans lesquels l'Esprit de Dieu demeure. Il est venu habiter en nous pour pouvoir vivre ces choses au travers de nous. Ces enseignements s'appliquent aux citoyens des cieux. Nous sommes les citoyens des cieux et nous vivons encore pour un petit peu de temps ici-bas, sur cette terre, dans son église. On vit là, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et on n'est pas obligé de vivre comme ce monde. On n'est pas obligé de tomber dans tous les trous et dans tous les pièges de ce monde. Il a mis en nous son esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous inspire, qui incline nos cœurs à faire le bien. Mes frères et sœurs, l'œuvre rédemptrice de Dieu nous a placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est aussi écrit. Et cette œuvre rédemptrice, ce rachat, Jésus nous a rachetés, ce rachat, cette œuvre rédemptrice, transfère son droit de cité de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire que ce que nous lions ici-bas sur cette terre, c'est tenu pour lier dans le ciel. Ce que nous pardonnons ici-bas sur terre, c'est pardonné dans le ciel. C'est pas rien. Nous sommes des êtres surnaturels. Voilà pourquoi notre marche doit être celle des citoyens des cieux et non pas une marche hésitante, comme les païens, comme ceux qui croient pas en Dieu, qui savent pas, qui doutent, qui ont des... Non, nous sommes pleins d'assurance. Parce que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu qui nous conduit à aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Notre vie doit être surnaturelle. Si notre vie n'est pas surnaturelle, ben alors à quoi ça sert? On retourne comme Moïse, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais j'arrive pas. Voudrais bien, mais je peux, ben oui. Mais maintenant, ça n'est plus comme ça, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas simplement une colombe, c'est la puissance créatrice de Dieu qui fait de nous une nouvelle créature capable de vivre correctement selon les lois de Dieu. C'est magnifique. Qu'est-ce que nous révèle l'Écriture? Que notre position est en Christ et qu'elle est surnaturelle. Que notre responsabilité d'enfant de Dieu qui nous est proposée, notre manière de vivre est surhumaine. Une puissance surnaturelle est accordé pour pouvoir justement mettre en pratique les exigences de Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez soigneusement noter ça. La manière de vivre dans le royaume terrestre est surhumaine. Vous ne pouvez pas vivre en tant que croyant de façon naturelle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, par notre propre nature, on ne peut pas. Paul disait... Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous le renversons et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Voilà ce que Paul disait. Pierre, il écrivait, « Afin que vous annonciez les vertus, les forces de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2, 9. On est passé des ténèbres à la lumière, de l'impuissance à la puissance, de l'incapacité à la capacité de faire, d'obéir, de vivre une vie pure. Paul, il reprenait encore, il disait, rendez continuellement grâce à Dieu pour toute chose. Pour toute chose? Oui, pour toute chose, même pour les choses désagréables, même pour les tentations, même pour les épreuves, même pour les difficultés. Rendez grâce à Dieu en toute chose. Un homme normal ne peut pas faire ça. Et il disait encore, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dieu nous a appelés à une certaine qualité de vie, et Paul dit maintenant, marcher d'une manière digne de cet appel, de cette vocation, Ephésiens 4, 1, et non pas comme des chrétiens qui disent tout le temps, c'est ma faute, oh là là, j'espère que Dieu n'est pas trop en colère, et qu'il va me pardonner aujourd'hui, jugement dernier, ça c'est dit, on n'est pas des larves. Jean, il proclamait, marchez dans la lumière, c'est possible. 1 Jean 1, 7. Paul reprenait, marchez selon le Saint-Esprit. Actes 5, 16. Il disait aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ephésiens 4, 30. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Il n'y a aucun doute, le caractère, ces injonctions, c'est surhumain. C'est surhumain. On n'y arrive pas par soi-même. Pas par notre propre nature. Quelle ressource humaine serait capable de produire les vertus de Jésus-Christ? Quelle qualité il faudrait que vous ayez pour que vous puissiez reproduire le style de vie de Jésus-Christ? Qui pourrait toujours rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Allez demander à nos frères et sœurs qui sont persécutés dans les pays où l'islam est roi, s'ils peuvent rendre grâce à Dieu en toutes choses. Eh bien oui, mes frères et sœurs. Allez demander à la sœur Flao si elle rend grâce à Dieu que demain elle enterre son mari. Oui, mes frères et sœurs. Elle rend grâce à Dieu en toutes choses. C'est un pouvoir surhumain qui nous fait faire ça. Qui serait capable de vivre de manière à ne pas attrister le Saint-Esprit? Personne. Rien que cette exigence nous montre qu'on est appelé à amener une vie surhumaine. C'est ça la vie spirituelle. Et là encore, je vous donne que quelques petits passages qui donnent une idée de l'ensemble du caractère de la loi du royaume, c'est-à-dire de l'Église de Jésus-Christ, de son Église. Alors on a lu Pierre, on a lu Paul, on a lu Jean, mais regardons ce que Jésus dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi aussi. Alors aimez-vous les uns les autres parce que c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout ça dans Jean 13, 34, Jean 15, 12, pour ceux qui veulent les références. Et vous voyez, mes frères et sœurs, ce nouveau commandement, c'est nouveau, Jésus dit c'est nouveau. Eh bien, c'est très en contraste avec l'ancien commandement de Moïse. Écoutez le commandement de Moïse, qu'est-ce qu'il disait Moïse? Il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, je trouve que c'est vraiment un exemple frappant de l'immense différence entre l'idéal proposé par Moïse d'un côté et l'idéal proposé par Jésus de l'autre. Avec Moïse, sous l'Ancien Régime, l'amour pour les autres, l'amour que nous devions donner aux autres, devait atteindre le degré de l'amour qu'on avait pour soi-même. C'est déjà pas mal. Et dans le royaume terrestre, dans l'Église de Jésus-Christ, il doit atteindre notre amour, mon amour doit atteindre le degré de l'amour que Jésus-Christ a eu pour moi, pour nous, en donnant sa vie en sacrifice. 1 Jean 3, 16. Ah, c'est différent. C'est pas simplement aime ton prochain comme toi-même, c'est aime ton prochain comme moi, ton Dieu, je t'aime. Oula! C'est infiniment plus grand. Mais est-ce qu'il nous donne la capacité de le faire? Oui, mes frères et sœurs. Sinon, c'est une farce. Sinon, c'est une blague. Sinon, c'est une philosophie invivable, trompeuse, méchante et débilitante. Vous voyez, mes frères et sœurs? Dans l'ancien système, il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 43, 46. Vous voyez, Jésus veut que ici-bas, nous agissions comme dans le royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu, ici, et il y a le royaume des cieux. Ici, c'est juste une salle d'attente. Sous Moïse, l'amour n'était exigé que jusqu'à un degré limité. Et rien n'était dit au sujet de l'attitude qu'on devait avoir quant aux gens qui étaient nos ennemis. Rien du tout. Alors, comment arriver aux exigences, à obéir, à vivre selon les exigences de Jésus? Mes frères et sœurs, l'amour exigé dans le royaume terrestre, dans l'Église, c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire c'est un produit de l'esprit qui vit en nous. Cet amour-là est produit par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il n'est pas produit même pas par notre volonté, même pas par par aucune de nos capacités humaines. Il est produit par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est une autre dispensation, c'est une autre vie. C'est la dispensation où on lâche prise, où on est humble et où on reconnaît, voilà, je ne peux pas y arriver. C'est là où la chair se retire en disant, je ne peux pas servir Dieu, j'en suis totalement incapable et je cède la place au Saint-Esprit maintenant. Seigneur, que je diminue afin que tu puisses croître en moi. Ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est Christ qui doit vivre en toi. Ce n'est plus toi qui dois aimer, c'est Christ en toi qui aime. C'est tout à fait autre chose. La vie dans le royaume terrestre a sa source dans le royaume céleste. Voilà pourquoi la prière, voilà pourquoi la communion avec Dieu, voilà pourquoi le parler en langue, voilà pourquoi toutes ces choses. Vivre par la force de notre petite nature humaine dans ce royaume, c'est commettre une erreur monumentale, comme disait le pasteur Bouchami. Une erreur désespérante, une erreur débilitante. C'est pourquoi il y a beaucoup de débiles, beaucoup de gens qui ont comment on appelle ça, une fissure dans leur vie. Ils veulent être chrétiens, ils s'efforcent, mais ils n'y arrivent pas. Alors ils sont malheureux et ils sont obligés d'être hypocrites pour faire croire qu'ils y arrivent. Voilà pourquoi il nous est dit, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit, mourez à vous-même. Renoncez à vos droits. Cessez vos revendications. Arrêtez d'avoir le cou raide. Arrêtez d'avoir un cœur obstiné. Renoncez à vos raisonnements. Et soumettez et vivez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on se prépare pour le ciel, là, ici-bas. Le royaume terrestre, l'église, comme je disais tout à l'heure, c'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente du ciel. C'est l'endroit où on apprend à écouter Dieu par la Bible lue, que vous devez lire vous. C'est là où on apprend à écouter Dieu par la Bible prêchée. C'est là où on apprend à écouter les chuchotements du Saint-Esprit à notre conscience personnelle. Alors souvenez-vous, il y a trois choses. Il y a le monde. Vous êtes libre d'y vivre. Dieu n'est pas fâché. Vous faites comme vous voulez. Il y a le monde. Et puis, il y a eu la dispensation de la loi pendant 1500 ans. Il y en a qui y vivent encore, même dans l'Église. Mais il y a maintenant le royaume de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Dieu lui-même dans le cœur des gens. Et il doit en être dans le royaume terrestre comme dans le royaume céleste. Les francs-maçons disent ce qui est en haut doit être comme ce qui est en bas, ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. Je pense qu'ils ont compris là-dedans, mais moi je comprends ce que je viens de vous dire. Quand le Saint-Esprit vient à notre secours, ça c'est la vie. Alors qu'il vienne à votre secours pour que vous soyez sensible à son action habilitante sans laquelle personne ne pourra rentrer. Amen. Jésus, je te prie de nous aider à saisir ces choses, à être humbles, à reconnaître que nous avons tellement besoin de toi, qu'on ne peut pas se débrouiller par nous-mêmes, que tu es notre bon berger, nous avons besoin que tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous aides et que de temps en temps, tu nous prennes aussi sur tes épaules pour nous porter, parce que nous sommes des blessés de la vie, parce que nous sommes découragés, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes malades. Seigneur Jésus, prends soin de chacun et de chacune ce matin. Merci, mon Dieu, de bénir. Bénis chacun, mon Dieu. Donne à chacun ce matin ce dont il a besoin. Je te prie, Seigneur Jésus, que si quelqu'un est dans la souffrance ce matin et qu'il veut crier à toi, qu'il veut se mettre en communion avec toi pour recevoir de toi l'aide dont il a besoin, l'aide dont il a besoin, eh bien que cette personne dans son cœur dise « Merci, Seigneur, je crois que tu m'aimes aussi. » Je crois que tu me pardonnes aussi. Que cette personne soit bénie maintenant. Je te prie, mon Dieu, que personne ne s'en aille l'âme découragée en disant « C'est pas possible, j'y arriverai jamais. » Mais que chaque personne sortant d'ici dise « Oui, mon Dieu, tu es mon secours. C'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui me prends en charge. C'est toi qui me fortifie. Tu viens à moi. » Et tu me soutiens de ta droite triomphante. Je te bénis pour cela. Je te demande, Père, aide chacun et chacune, afin que chacun et chacune, au jour où tu reviendras, soit trouvé, travaillant fidèlement, ici-bas sur cette terre, prêt à aller dans le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.